Chapitre 6. Le sniper et le fermier. Le lendemain était un jour de week-end, mais Wang Miao se leva tôt. Il prit son appareil photo et partit faire une promenade à vélo. Amateur de photographie, son thème favori était les espaces naturels où ne transparaissait pas l'empreinte humaine. Malheureusement, à son âge, il n'avait plus beaucoup de temps à consacrer à ce loisir de luxe. La plupart du temps, il devait se satisfaire de saisir des clichés de paysages urbains. Volontairement ou non, il sélectionnait les rares endroits de la ville où subsistaient quelques rémanences de nature, comme le fond du lac asséché d'un parc public, le sol fraîchement exhumé par les engins d'un chantier de construction, les mauvaises herbes poussant entre les fissures du béton. Pour éliminer des images les couleurs acidulées de la ville, il n'utilisait que des pellicules en noir et blanc. De manière inattendue, ce style caractéristique lui valait une petite réputation dans le milieu. Ses œuvres avaient été présentées lors de deux grandes expositions nationales, et il avait intégré l'association des photographes. Chaque fois qu'il sortait pour prendre des photos, il déambulait dans la ville à vélo, à la recherche de l'inspiration et de la composition souhaitée. Cela lui prenait parfois une journée entière. Ce jour-là, Wang Miao se sentait un peu bizarre. Alors que d'ordinaire il se distinguait par des photographies élégantes, équilibrées, quoique assez classiques, il peinait aujourd'hui à trouver la stabilité dont il avait besoin. Ce matin, la ville émergeant de son sommeil lui paraissait bâtie sur un sol fait de sable mouvant. Son équilibre était illusoire. La nuit précédente, les deux boules de billard avaient pris possession de ses rêves. Elles flottaient anarchiquement dans les ténèbres de l'espace. Dans cette totale obscurité, ce n'était que quand elle éclipsait la boule blanche que la boule noire révélait sa présence. Était-il possible que la nature fondamentale de la matière soit réellement sans loi? Était-il possible que la stabilité et l'ordre du monde ne soient qu'un état d'équilibre éphémère dans un coin de l'univers, un tourbillon fugace dans un torrent de chaos? La science allait-elle être assassinée? Sans s'en rendre compte, il était arrivé au pied du nouveau bâtiment de la China Central Television. Il posa pied à terre et s'assit au bord de la route, puis leva les yeux vers la gigantesque tour en forme de A. Il essayait de retrouver un sentiment d'équilibre. Son regard suivit la direction de la cime pointue de la tour qui scintillait sous les rayons du soleil, puis ses yeux s'abîmèrent dans le bleu infini du ciel. C'est alors que deux mots émergèrent dans son esprit. Sniper, fermier. Dans leur débat, les membres de la Société des frontières de la science utilisaient souvent l'abréviation SF, non pas pour science-fiction, mais parce qu'elle renvoyait aux initiales des mots sniper et fermier. Ces mots faisaient référence à deux hypothèses en lien avec la nature des lois de l'univers. L'hypothèse du sniper était la suivante. Un tireur d'élite de génie s'amuse à mitrailler une cible dans laquelle chaque impact de balle se situe à une distance précise de 10 cm l'un de l'autre. Imaginons que sur la surface même de la cible vivent des créatures intelligentes en deux dimensions. Les honorables scientifiques de cette étrange espèce mènent une étude qui les conduit à édicter une loi fondamentale. Dans l'univers, il y a un trou tous les 10 cm. Les créatures prennent la distraction du sniper pour un principe invariable de l'univers. L'hypothèse du fermier, elle, tient du roman d'épouvante. Il était une fois des dindes vivant dans la basse-cour d'une ferme. Chaque jour, à 11 h du matin précise, le fermier venait apporter le déjeuner des volailles. Un scientifique de la Société des dindes étudia ce phénomène et remarqua qu'il avait lieu de façon régulière depuis près d'un an, sans avoir jamais connu d'exception. Il en déduisit donc qu'une loi fondamentale régissait l'univers. La nourriture arrive chaque matin à 11 h. Il présenta cette loi le matin même du jour de Noël à ses compatriotes. Or, ce jour-là, à 11 h, aucun déjeuner n'arriva. Le fermier entra dans la basse-cour et égorgea les dindes. Wang Miao sentit le sol bouger sous ses pieds comme s'il se trouvait sur des sables mouvants. La tour en forme de A sembla vaciller. Il reporta son regard sur la chaussée pour échapper à ce sentiment de vertige et se força à terminer sa pellicule. Il rentra chez lui sur le coup de midi. Son épouse était sortie avec son fils et il n'était pas revenu pour le déjeuner. En temps ordinaire, Wang Miao aurait brûlé d'impatience de développer la pellicule, mais aujourd'hui, il n'en avait pas le goût. Après un repas frugal, comme il n'avait pas bien dormi la veille, il s'endormit pour ne se réveiller qu'à presque 17 heures. Il se souvint à son réveil des photos qu'il avait prises le matin même, et il pénétra dans le placard mural qu'il avait transformé en chambre noire. Le développement ne dura pas longtemps. Wang Miao commença à trier celles qui méritaient d'être agrandies. Cependant, il découvrit quelque chose de curieux sur la première photo. C'était un cliché d'un morceau de pelouse à l'extérieur d'un grand centre commercial. Sur l'image, il remarqua une ligne blanche qui, observée de plus près, se révéla en fait être une suite de chiffres. 1200.002.00. Une autre suite apparaissait sur la deuxième photo. 1199.49.33. Des petites suites de chiffres du même genre se retrouvaient sur toutes les photos. La troisième, 1199.40.18. La quatrième, 1199.32.07. La cinquième, 1199.28.51. La sixième, 1199.15.44. La septième, 1199.07.38. La huitième, 1198.53.09. La 34e, 1194.50.49. Et la 35e, la dernière photo, 1194.16.37. Wang Miao pensa d'abord à un problème de bobine. Il utilisait un Leica M2 fabriqué en 1988. Celui-ci était entièrement manuel et sans la moindre fonction automatique. Il était donc impossible d'ajouter une date. La qualité hors pair de son objectif et de sa mécanique faisait du Leica M2 un appareil professionnel d'élite, même à l'ère du numérique. Après avoir à nouveau étudié les images, Wang Miao s'aperçut d'un autre phénomène étrange concernant ces suites de chiffres. Elles paraissaient s'adapter d'elles-mêmes au décor. Si le fond était noir, les numéros apparaissaient en blanc, et vice-versa. Il semblait prendre la couleur permettant le plus grand contraste possible afin d'être bien visible de l'observateur. À la 16e photographie, le cœur de Wang Miao bondit dans sa poitrine. Dans la chambre noire, il sentit un frisson glacial remonter sa moelle épinière. La photo prise était celle d'un arbre sec devant un vieux mur tout pommelé. La logique voulait que la suite de chiffres, qu'elle soit de couleur blanche ou noire, ne puisse apparaître clairement sur le fond de l'image. Mais à son grand étonnement, les chiffres de couleur blanche étaient placés verticalement et rampaient comme un serpent le long des ondulations sinueuses du tronc. Wang Miao se mit à étudier la relation mathématique entre les chiffres. Il songea en premier lieu à des numéros de série, mais les intervalles entre les chiffres n'étaient pas les mêmes. Il comprit vite qu'ils représentaient des unités d'heures, de minutes et de secondes. Il sortit son carnet de photographie sur lequel il consignait l'heure et la minute précise à laquelle il prenait ses photos. Il eut la confirmation que l'intervalle de temps compris entre chaque prise était identique à celui affiché entre les nombres. Apparemment, la pellicule avait décompté à l'envers le temps écoulé dans la réalité. Wang Miao comprit aussitôt de quoi il s'agissait. Un compte à rebours. Celui-ci commençait à 1200 heures. Il en restait maintenant 1194. Maintenant ? Non, car la dernière photo avait été prise une heure avant. Le compte à rebours était-il toujours en marche ? Wang Miao sortit de la chambre noire. Il inséra une nouvelle bobine dans son Leica, puis prit quelques photos au hasard dans la pièce et depuis le balcon. Une fois la pellicule terminée, il la sortit de l'appareil et alla la développer dans la chambre noire. Les nombres réapparurent comme des spectres sur chaque photo. La première suite indiquait 1187-27-39. Et de la suivante à la dernière, on retrouvait bien le même intervalle de temps. La durée qui séparait chaque suite était d'environ 3 à 4 secondes. 1187, 27, 35, 1187, 27, 31, 1187, 27, 27, 1187, 27, 24, c'est-à-dire la même qu'entre les prises. Le compte à rebours ne s'était pas arrêté. Wang Miao inséra une nouvelle pellicule dans l'appareil et s'empressa de prendre des photos au hasard, y compris certaines avec le cache volontairement laissé sur l'appareil. Lorsqu'il eut fini de mitrailler la pièce, son épouse et son fils rentrèrent à la maison. Avant de s'empresser d'aller développer les photos, Wang Miao mit une nouvelle pellicule dans son Leica, puis le tendit à sa femme. « Tiens, finis la pellicule. »« Que veux-tu que je prenne ?» lui demanda-t-elle en le regardant avec étonnement. En d'autres circonstances, il n'aurait jamais autorisé quiconque à utiliser son appareil, même si, de toute façon, ni elle ni leur fils n'en avaient vraiment envie. À leurs yeux, c'était une vieille antiquité achetée plus de 20 000 yuan. « Peu importe, ce que tu veux. » Wang Miao fourra l'appareil dans la main de sa femme. « Doudou, viens ici que je te prenne en photo, » dit-elle en pointant l'objectif vers son fils. Dans l'esprit de Wang Miao apparut l'image du compte à rebours fantôme traversant comme un nœud coulant le visage de son fils. Il ne put s'empêcher de frissonner à cette évocation. « Non, pas lui. N'importe quoi, mais pas lui. » Clic. Son épouse prit la première photo, puis elle lui lança. « Pourquoi ça ne marche plus quand j'appuie ?» Il aida sa femme à faire avancer la pellicule. « Tu vois, comme ça. Maintenant, tu peux prendre la prochaine photo. » Puis il pénétra dans la chambre noire. « Qu'est-ce que c'est compliqué !» Son épouse, médecin de son état, n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse s'amuser avec un jouet aussi ancien qui ne prenait que des photos en noir et blanc, à une époque où on trouvait partout des appareils numériques avec des dizaines de millions de mégapixels. Une fois les pellicules développées, il les passa sous la lumière rouge. Wang Miao découvrit que le compte à rebours fantôme se prolongeait encore sur tous les négatifs. Sur toutes les photos qu'il avait prises, peu importe lesquelles et quand, y compris celles qu'il avait prises le cache fermé, on pouvait apercevoir distinctement 1187-1906, 1187-1903, 1187-1859, 1187-1856. Sa femme toqua deux fois à la porte de la chambre noire et dit qu'elle avait terminé. Wang Miao ouvrit la porte et agrippa l'appareil. Ses mains tremblaient alors qu'il enlevait la pellicule. Il ne se préoccupa pas du regard ahuri de son épouse et retourna aussitôt dans la chambre noire en fermant violemment la porte. Il agit avec précipitation, jetant le révélateur et le fixateur par terre. Il ne lui fallut pas longtemps pour terminer de développer les images. Wang Miao ferma les yeux en priant. « Pitié, peu importe ce que c'est, pourvu que ça n'apparaisse pas. Pas maintenant, pas à moi !» Il regarda la pellicule encore humide à travers l'agrandisseur. Le compte à rebours avait disparu. Il n'y avait sur les négatifs que les scènes d'intérieur photographiées par son épouse. Elle avait utilisé une faible vitesse d'obturation et l'opacité des images traduisait son amateurisme, mais Wang Miao trouva que c'étaient les photos les plus réjouissantes qu'il lui ait jamais été donné de voir. Wang Miao sortit de la chambre noire en poussant un profond soupir de soulagement. Il remarqua qu'il était trempé de sueur. Son épouse était allée dans la cuisine pour préparer le repas et son fils était parti jouer dans sa chambre. Wang Miao s'affala seul sur le canapé et commença à réfléchir de façon plus rationnelle. Tout d'abord, ces nombres qui enregistraient précisément l'écoulement du temps entre différentes prises indiquaient des signes certains d'intelligence. Ils n'avaient donc pas pu être préimprimés sur la pellicule. La seule possibilité, c'était que quelque chose les avait projetés par photosensibilité. Mais quoi ? Était-ce un défaut de l'appareil ? Un mécanisme avait-il été installé à son insu ? Il dévissa l'objectif, démonta l'appareil et examina les différents composants avec l'agrandisseur. Ceux-ci n'étaient pas poussiéreux et ne semblaient rien présenter d'anormal. Soudain, il repensa aux scènes qu'il avait prises avec le cache sur l'objectif. La photosensibilité devait être provoquée par des rayons extérieurs suffisamment puissants pour pouvoir traverser le cache. Or, c'était impossible d'un point de vue technique. D'où venaient les rayons et comment avaient-ils été braqués sur l'appareil? Au vu des technologies existantes, cette force apparaissait surnaturelle. Pour s'assurer que le compte à rebours fantôme avait bien disparu, Wang Miao inséra une autre bobine dans son Leica et recommença à prendre des photos au hasard, bien que plus lentement cette fois, car il réfléchissait en même temps. Au moment de développer les photos, lui qui avait eu toutes les peines du monde à retrouver son calme se sentit soudain une nouvelle fois poussé au bord du précipice de la folie. Le compte à rebours était réapparu. Et, si l'on en croyait les images, le temps ne s'était pas du tout arrêté. C'était simplement qu'il n'était pas apparu sur les photos prises par son épouse. 1186 34 13 1186 34 02 1186 33 46 1186 33 35 Wang Miao sortit précipitamment de la chambre noire, puis de la maison, et frappa violemment à la porte de son voisin. Chang, professeur à la retraite, lui ouvrit. « Mon vieux Chang, as-tu un appareil photo chez toi ?»« Oh, pas un numérique, un avec des pellicules. »«
C'est un grand photographe comme toi qui vient m'emprunter un appareil photo. »« Le tien à 20 000 yuan ne marche plus. »« Je n'en ai qu'un numérique. »«
Tu te sens bien ? Tu as mauvaise mine. »«
Puis-je te l'emprunter ?»
Le professeur Chang revint rapidement avec un Kodak parfaitement quelconque.
« Tiens, il suffit d'effacer les photos. »«
Merci. » Wang Miao récupéra l'appareil et retourna en trombe dans son appartement. Il possédait en réalité encore 3 appareils photo à pellicule et 1 numérique, mais il s'était dit qu'un appareil emprunté à l'extérieur serait plus digne de confiance. Il observa les 2 appareils et les quelques pellicules posées sur le canapé et réfléchit quelques instants avant d'insérer une pellicule couleur dans son précieux Leica et de tendre le numérique à son épouse en train de faire la cuisine.
« Vite, prends encore quelques photos, comme tout à l'heure. »«
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda sa femme, affolée.
« Ne t'inquiète pas, prends les photos. »
Son épouse abandonna les assiettes qu'elle tenait dans les mains, puis elle s'approcha de son mari. À l'affolement de tout à l'heure s'ajoutait maintenant dans son regard une vive inquiétude. Wang Miao détourna la tête, et, abandonnant son épouse, il plaça le Kodak entre les mains de son fils de 6 ans.
« Doudou, tu veux aider papa ? Appuie là. »«
Oui, voilà.
Encore une. »«
Très bien.
Encore. Entraîne-toi, prends ce qui te fait plaisir. »
Il ne fallut pas longtemps au gamin pour apprendre à utiliser l'appareil. Il trouva même le jeu amusant et se mit à prendre des photos à toute vitesse. Wang Miao se retourna et ramassa le Leica posé sur le canapé. Lui aussi recommença à prendre des photos. Père et fils mitraillaient l'appartement, des larmes montèrent aux yeux de son épouse. Prise dans le feu des flashs, elle semblait complètement désemparée.
« Je sais que tu as beaucoup de stress au travail en ce moment, mais ne... »
Wang Miao termina la pellicule du Leica avant de prendre l'appareil numérique des mains de son fils. Il réfléchit un instant et, pour éviter d'être dérangé par sa femme, il décida d'aller dans la chambre et prit encore quelques photos avec le numérique. Il utilisa le mode viseur électronique et non l'écran à cristaux liquides. Il avait beau savoir qu'il finirait tôt ou tard par en prendre connaissance, il avait peur du résultat. Wang Miao emporta ensuite la bobine du Leica dans la chambre noire et s'empressa de bien refermer la porte. Après avoir fini de développer les photos, comme ses mains tremblaient, il dut tenir fermement l'agrandisseur. Le compte à rebours continuait à défiler sur les images. Wang Miao bondit hors de la chambre noire. Il commença par vérifier les photos prises par l'appareil numérique. Sur l'écran à cristaux liquides, on pouvait remarquer que les nombres n'apparaissaient pas sur les photos prises par son fils, tandis que sur les siennes, en revanche, ils étaient bien visibles. L'écoulement du temps correspondait bien à celui inscrit sur les négatifs du Leica. Wang Miao s'était servi d'appareils différents dans le but d'exclure l'hypothèse du dysfonctionnement de l'appareil ou des bobines. Sans trop y réfléchir, il avait aussi demandé à son épouse et à son fils de prendre des photos. Mais les résultats obtenus étaient encore plus étranges. Peu importe l'appareil, seules les photos prises par lui étaient marquées du compte à rebours fantôme. Dans un élan de désespoir, Wang Miao ramassa la pile de pellicules comme s'il s'agissait d'un nid de serpent ou d'un paquet de nœuds impossible à démêler. Il savait qu'il ne parviendrait pas à résoudre cette énigme en ne comptant que sur lui-même. Il ne pouvait en parler aux collègues de son université et de son laboratoire, car, comme lui, il raisonnait en termes technologiques, et son intuition lui disait que ce phénomène dépassait la technologie. Il pensa à Ding Yi, mais il se dit que ce dernier était suffisamment déstabilisé par sa propre crise existentielle. Il songea enfin à la Société des frontières de la science. C'était un groupe de personnes avenantes et à l'esprit ouvert. Il composa le numéro de téléphone de Shen Yufei. « Docteur Shen, il m'est arrivé quelque chose, je dois t'en parler », lâcha hâtivement Wang Miao.
« Viens »,
se contenta de dire Shen Yufei avant de raccrocher. Wang Miao fut décontenancé. D'ordinaire, Shen Yufei était certes avare de paroles, si bien que les membres des frontières de la science la taquinaient parfois en la surnommant « Madame Hemingway ». Mais cette fois-ci, elle n'avait même pas pris la peine de demander de quoi il retournait. Wang Miao ignorait s'il devait s'en sentir rassuré ou encore plus inquiet. Il fourra la bobine dans une sacoche, emporta l'appareil photo numérique et sortit de la maison sous les yeux médusés de sa femme. Il aurait pu choisir de s'y rendre avec sa voiture, mais bien que la ville soit abondamment éclairée, il ne voulait pas rouler seul et il appela un taxi. Shen Yufei vivait dans un quartier huppé situé près des nouveaux rails de banlieue. Ici, les lumières étaient bien plus ténues qu'en centre-ville. Les villas étaient construites tout autour d'un lac artificiel où il était possible d'aller pêcher. Le soir, une ambiance de village de campagne régnait sur le quartier. Shen Yufei était visiblement fortuné, mais Wang Miao n'avait jamais vraiment su l'origine de sa richesse, car ni son ancien poste de chercheuse universitaire, ni son emploi actuel au sein d'une compagnie privée ne lui auraient permis de gagner autant d'argent. Sa villa ne donnait toutefois pas l'impression d'un étalage de luxe. La maison servait d'espace de réunion aux frontières de la science, dont les rencontres avaient lieu dans une petite bibliothèque qui faisait office de salle de conférence. Dans le salon, Wang Miao croisa Wei Cheng, le mari de Shen Yufei. C'était un homme d'une cinquantaine d'années qui avait l'apparence d'un intellectuel sage et sincère. Wang Miao ne connaissait de lui que son nom, car c'était la seule chose qu'avait mentionné Shen Yufei quand elle le lui avait présenté. Il n'avait apparemment pas de travail, restait à la maison toute la journée, et ne paraissait pas éprouver de véritable intérêt pour les activités des frontières de la science. Les allées et venues de scientifiques à son domicile n'étaient pour lui qu'une banale routine. Mais il avait de quoi occuper ses journées, il semblait mener des recherches sur quelque chose, et donnait l'impression d'être toute la journée plongé dans ses réflexions. Il saluait distraitement les hôtes, puis il montait dans sa chambre à l'étage où il passait le plus clair de ses journées. Un jour, Wang Miao avait discrètement jeté un œil dans la chambre dont la porte était entrouverte. Il y avait vu un décor surprenant. Une station de travail HP trônait au milieu de la pièce. Il ne pouvait pas s'être trompé car c'était le même équipement que celui de son centre de recherche. Un boîtier gris foncé et un serveur RX8620 sorti 4 ans plus tôt. Il était pour le moins étonnant qu'un particulier possède chez lui une machine d'une valeur d'un million de yuan. Que faisait Wei Cheng toute la journée avec cette machine?
Yufei est occupé à l'étage, merci d'attendre un moment ici, dit Wei Cheng avant de monter les escaliers.
Wang Miao essaya de contenir son impatience, mais il ne parvint pas à rester en place et suivit finalement Wei Cheng à l'étage. Il le vit entrer dans la chambre où se trouvait la précieuse station de travail. Wei Cheng ne parut pas contrarié que Wang Miao le suive. Il lui indiqua la porte d'en face. « Elle est à l'intérieur. » Wang Miao frappa à la porte qui n'était pas complètement fermée. À travers l'ouverture, il aperçut Shen Yufei en train de jouer sur son ordinateur. Ce qui l'étonna plus encore, c'était qu'elle portait une V-combinaison, la panoplie de réalité virtuelle la plus à la mode chez les joueurs de jeux vidéo. La panoplie se composait d'un casque à visée panoramique et d'une combinaison haptique équipée de capteurs capables de reproduire les sensations du jeu, bagarre, coup de couteau, incendie, en jouant sur la température.
Le costume permettait même de simuler la sensation qu'on pouvait éprouver en plein milieu d'une tempête de pluie ou de neige. Wang Miao marcha jusqu'à se retrouver derrière elle, mais, comme elle portait son casque, aucune image du jeu n'apparaissait sur l'ordinateur. À cet instant, il se rappela que le commissaire Shi Xiang lui avait demandé de noter les pages web ou les adresses courriel des membres des frontières de la science. Sans se faire remarquer, il jeta un coup d'œil sur la barre URL du navigateur et n'eut aucun mal à retenir l'adresse, à la fois simple et intrigante. Chen Yufei ôta son casque virtuel, puis retira sa combinaison. Elle chaussa sur son nez des lunettes qui paraissaient énormes sur son visage émacié, puis, l'air indifférent, elle fit un signe de tête à Wang Miao. Elle ne disait rien, elle attendait qu'il parle. Wang Miao sortit ses bobines de pellicule et commença le récit de sa mystérieuse aventure. Chen Yufei l'écoutait avec attention. Quant aux pellicules, elle se contenta de les balayer du regard sans prendre la peine de les observer en détail, ce qui surprit Wang Miao et lui apporta la confirmation que Chen Yufei n'était pas totalement ignorante du phénomène auquel il faisait face. Il faillit couper son récit, mais les signes de tête insistants de Chen Yufei le contraignirent à raconter son histoire jusqu'au bout. Ce n'est qu'après qu'il eut fini de parler que Chen Yufei prononça sa première phrase de la soirée. « Où en est le projet sur les nanomatériaux dont tu es responsable ?» La question déstabilisa Wang Miao. « Notre projet sur les nanomatériaux ? Mais quel est le rapport » demanda-t-il en désignant le tas de pellicules. Chen Yufei ne répondit pas et continua à le regarder calmement, attendant sa réponse. C'était sa manière à elle de communiquer. Elle ne prononçait jamais un mot de trop. « Cesse tes recherches, » lâcha Chen Yufei. « Comment ?» Wang Miao croyait avoir mal entendu. « Qu'as-tu dit ?» Chen Yufei garda le silence. « Cesser les recherches ? Mais c'est un projet national d'une importance capitale !» Chen Yufei demeura muette. Elle se bornait à le fixer, le regard tranquille. « Essaie. Mais que sais-tu à la fin, dis-le-moi. C'est tout ce que je peux te dire. Mais je ne peux pas stopper ce projet, c'est tout simplement impossible. Essaie. » La conversation sur le compte à rebours fantôme s'arrêta là. Malgré l'insistance de Wang Miao, Chen Yufei ne daigna plus rien ajouter à ce sujet, hormis cette phrase « Ou sinon, tes ennuis risquent d'être encore plus graves. » Je comprends maintenant que la Société des frontières de la science n'a rien d'un simple groupe de discussion autour de théories scientifiques fondamentales, comme vous le prétendez. Son rapport à la réalité est beaucoup plus complexe que ce que je croyais, dit Wang Miao. Au contraire, tu dois t'ôter cette idée de l'esprit. Ce à quoi touche la Société des frontières de la science est quelque chose de bien plus fondamental que ce que tu imagines. Dépité, Wang Miao se leva et partit sans même un au revoir. Chen Yufei le raccompagna jusqu'à la porte du jardin et l'observa monter dans son taxi. Au même instant, une autre voiture déboula à toute allure et vint piler juste devant la porte. Un homme en sortit. Malgré ses lunettes de soleil, Wang Miao le reconnut dès le premier coup d'œil grâce à la lueur filtrante à travers la villa. C'était Pan Han, l'un des membres les plus célèbres de la Société des frontières de la science. Biologiste de formation, il avait prédit avec succès les malformations génétiques que causerait sur le long terme la consommation de produits agricoles génétiquement modifiés. De même, il avait anticipé les catastrophes écologiques que provoqueraient les cultures d'OGM. Les prédictions de Pan Han étaient autrement plus concrètes et détaillées que les prophéties abstraites dont les oracles de la science abreuvaient d'ordinaire les médias. Toutes ces prévisions s'étaient effectivement réalisées. Leur taux d'exactitude était d'ailleurs tel qu'une légende le disant venu du futur était née. Il devait aussi sa réputation au fait d'avoir fondé la première communauté expérimentale en Chine. Contrairement aux tentatives de ces groupes occidentaux utopistes qui ne juraient que par le retour à la nature, la communauté appelée Chine pastorale n'était pas basée en pleine nature, mais au milieu de la plus grande ville du pays. La communauté ne possédait rien. Même les aliments qu'elle consommait provenaient des déchets de la ville. Contrairement à ce que les gens avaient pronostiqué, non seulement la Chine pastorale avait survécu, mais la communauté s'était rapidement élargie. Ses membres actifs dépassaient aujourd'hui les 3000 personnes, tandis que le nombre de ceux qui y restaient un temps plus court pour expérimenter ce nouveau mode de vie était incalculable. Fort de ses succès, les idéaux sociaux de Pan Han ne cessèrent de gagner du terrain. Ils considéraient que la révolution technologique était une maladie des sociétés humaines. Ils comparaient la prolifération des technologies à une propagation rapide de cellules cancéreuses causant l'extinction de tout nutriment organique, la destruction des organes et, en définitive, la mort des organismes hôtes. Ils plaidaient pour l'élimination des énergies dites agressives, comme l'exploitation des combustibles fossiles et l'énergie nucléaire, qui devaient selon lui être remplacées par des énergies douces, comme le solaire ou la petite hydroélectricité. Ils se prononçaient en faveur de la dissolution progressive des villes et pour une répartition des populations dans des villages, afin de favoriser l'autosuffisance, avec comme fondement l'utilisation de technologies douces, le tout dans le but d'établir un nouveau type de société agraire. « Il est à l'intérieur ?» demanda Pan Han en pointant le premier étage de la villa. Shen Yufei ne répondit rien, se contentant de lui barrer la route en silence. « Je dois le prévenir, et toi aussi, ne nous forcez pas la main !» cria Pan Han en arrachant ses lunettes de soleil. Shen Yufei ne lui répondit pas et se tourna vers Wang Miao qui venait de monter dans son taxi. « Tu peux partir, tout va bien !» Elle fit signe au chauffeur de démarrer. Une fois le moteur mis en route, Wang Miao n'entendit plus rien de leur conversation. Après quelques dizaines de mètres, il tourna la tête et vit derrière lui que Shen Yufei n'avait toujours pas fait entrer Pan Han dans la villa. Quand il rentra chez lui, il faisait déjà nuit noire. Le taxi déposa Wang Miao à l'entrée de son quartier résidentiel. Soudain, une Santana noire vint freiner juste à côté de lui. La fenêtre s'ouvrit et une bouffée de cigarettes s'en échappa. C'était Shi Xiang. Sa carcasse massive était compressée sur le siège conducteur.
« Ça alors ? Le professeur Wang, l'académicien Wang, comment allez-vous depuis avant-hier ?
Vous me suiviez ? Vous n'avez rien d'autre à faire ?
Ne le prenez pas comme ça, j'aurais très bien pu m'en aller sans vous saluer. Je fais preuve de politesse et vous sortez les grands mots. »
Shi Xiang se fendit de son inimitable sourire nigo et lui dit d'un ton espiègle.
« Avez-vous pu obtenir des informations là-bas? Avec qui êtes-vous entré en contact ?»«
Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas avoir affaire à vous. Cessez de me suivre. »«
Bien reçu !»
lâcha Shi Xiang avant de mettre le contact.
« Si vous croyez que ça me fait plaisir de faire des heures supplémentaires, il y a un match de foot qui m'attend. »
Quand Wang Miao rentra chez lui, sa femme et son fils dormaient déjà. Il pouvait entendre son épouse remuer anxieusement dans le lit. Qui sait quel cauchemar avait fait naître le comportement bizarre de son mari? Wang Miao avala 2 comprimés d'anxiolytique et s'allongea sur le lit, mais il s'écoula un long moment avant qu'il parvienne à trouver le sommeil. Ses rêves étaient très décousus, mais comme il l'avait prévu, un élément revenait sans cesse dans chacun d'entre eux. Le compte à rebours. Il s'attaquait au compteur qui lui apparaissait suspendu dans le ciel. Il le pinçait, le mordait, mais rien ne permettait d'en venir à bout. Le compte à rebours restait pendu au milieu du ciel et le temps continuait à s'égrener. Et ce fut lorsque l'agacement de Wang Miao fut à son comble qu'il se réveilla. Il écarquilla les yeux et fixa le plafond, le regard encore trouble. Dehors, les lumières de la ville projetaient des ombres obscures sur les rideaux. Mais quelque chose l'avait suivi depuis le monde des rêves, le compte à rebours fantôme. Celui-ci apparaissait maintenant devant ses yeux. Les nombres étaient fins mais très lumineux, d'un blanc brûlant. 1185, 11, 34, 1185, 11, 33, 1185, 11, 32, 1185, 11, 31. Wang Miao regarda autour de lui. Tout lui apparaissait flou dans la chambre. Il s'assura qu'il était bien réveillé, mais le compte à rebours était toujours là. Il ferma les yeux, mais la suite de chiffres émergeait encore dans cette totale obscurité, comme du mercure coulant sur les plumes d'un cygne noir.
Il ouvrit à nouveau les yeux, les massa un peu, mais le compte à rebours était toujours là. Quelle que soit la direction dans laquelle il pointait son regard, la rangée de nombres occupait imperturbablement le plein centre de son champ de vision. Wang Miao s'assit brutalement. Il frissonnait de peur. Le compte à rebours le suivait, quoi qu'il fasse. Il sauta du lit, tira les rideaux et ouvrit la fenêtre. Dehors, la ville endormie brillait encore de mille feux. Le compte à rebours s'affichait sur cette vaste toile nocturne comme les sous-titres sur un écran de cinéma. Pendant un certain temps, Wang Miao se sentit comme étouffé et il ne put s'empêcher de pousser un cri sourd. Devant les interrogations épouvantées de son épouse, que le cri avait réveillée, il s'efforça de retrouver son calme et la rassura en lui disant que tout allait bien. Puis il retourna s'allonger sur le lit, ferma les yeux, et ce fut sous la phosphorescence spectrale du compte à rebours qu'il passa le restant de la nuit. Le matin, une fois levé, Wang Miao lutta pour ne rien laisser paraître, mais son épouse sentait bien qu'il n'était pas dans son état normal. Elle lui demanda si ses yeux allaient bien et s'il voyait distinctement. Son petit déjeuner avalé, Wang Miao demanda congé à son centre de recherche et partit en voiture à l'hôpital. Le long de la route, la barre horizontale du compte à rebours fantôme le précédait inexorablement en s'adaptant d'elle-même à la luminosité et au décor. Wang Miao essaya même de regarder fixement le lever de soleil pour forcer le compte à rebours à disparaître un moment. Mais ses efforts furent vains. La suite diabolique s'afficha de façon effroyable sur l'astre solaire. Cette fois, elle n'eut pas besoin d'augmenter sa luminosité, mais devint noire, comme si elle était projetée sur l'orbe du soleil, ce qui la rendit encore plus menaçante. Il était difficile d'obtenir un rendez-vous pour une consultation à l'hôpital Tongren de Pékin, mais Wang Miao était passé directement par une ancienne camarade de sa femme, une ophtalmologue réputée. Il ne lui expliqua pas tout de suite ses symptômes, souhaitant d'abord que le médecin examine ses yeux. Après un examen précis, celle-ci lui indiqua qu'il n'y avait aucune trace d'affection et que ses yeux fonctionnaient normalement. « J'ai sans cesse quelque chose devant les yeux. Peu importe où je porte mon regard, c'est toujours là », dit Wang Miao tandis que le compte à rebours s'affichait horizontalement sur le visage du médecin. 1175-11-34, 1175-11-33, 1175-11-32. « Le syndrome des mouches volantes ?» dit l'ophtalmologue en sortant une ordonnance et en commençant à écrire. « C'est une maladie oculaire commune à notre époque. Elle est provoquée par l'opacité du cristallin. Elle n'est pas facile à traiter, mais il n'y a pas à s'affoler. Je vais vous prescrire des solutions d'iode et de la vitamine D qui pourront peut-être les faire disparaître. Il y a peu d'espoir, mais ce n'est pas un problème très grave. Il suffira de vous habituer à ces impuretés dans votre champ de vision. Elles n'ont pas d'impact sur la vue en tant que telle. Dans le syndrome des mouches volantes dont vous parlez, à quoi ressemblent ces impuretés au juste ? Il n'y a pas de règle, cela dépend des personnes. Souvent ce sont des petites taches noires, un peu comme des têtards. Et lorsqu'on voit des nombres... Le bruit du stylo du médecin grattant sur le papier de l'ordonnance, c'est ça. Vous voyez des nombres ? Oui. Une rangée horizontale de nombres que je n'arrive pas à faire disparaître. Le médecin repoussa la feuille et le stylo et le regarda avec empathie. Je l'ai su en vous voyant entrer dans le cabinet. Lors de notre dernier repas entre anciens camarades, Li Yao m'a raconté que vous subissiez beaucoup de pression au travail. À notre âge, il faut faire attention à notre santé, nous n'avons plus 20 ans. Vous voulez dire que c'est un problème d'origine psychologique ? Le médecin hocha la tête. Dans ce type de situation, je conseille d'ordinaire à mes patients d'aller voir un psychologue, mais ce n'est pas indispensable, il n'y a rien de grave, c'est simplement un excès de fatigue. Reposez-vous quelques jours, prenez des vacances avec Li Yao et le petit, comment s'appelle-t-il déjà ? Doudou, c'est ça ? Ne vous inquiétez pas, vous irez bientôt mieux. 1175-10-02, 1175-10-01, 1175-10-00, 1175-09-59. « Je vais vous dire ce que j'ai devant les yeux. Un compte à rebours qui défile seconde après seconde avec précision. Vous voulez dire que tout ça, c'est dans ma tête ?» Le médecin lui sourit avec bienveillance. « Vous voulez savoir jusqu'à quel degré des facteurs psychologiques peuvent affecter la vision ? Une jeune fille a été admise dans le service le mois dernier.
Quel âge avait-elle? 15, 16 ans? Un jour, alors qu'elle était dans sa salle de classe, elle a soudain perdu la capacité de distinguer quoi que ce soit. Elle a complètement perdu la vue. Après plusieurs examens, nous avons conclu que ses yeux étaient physiologiquement en bon état. Elle a suivi un traitement psychothérapeutique pendant un mois chez un psychiatre et, brusquement, ses yeux ont retrouvé leur acuité visuelle.
Wang Miao avait conscience qu'il perdait son temps ici. Il se leva et glissa avant de partir.
« D'accord, ne parlons plus de mes yeux. J'ai une dernière question à vous poser. Savez-vous s'il peut exister une quelconque force externe qui serait capable de contrôler à distance notre vision ?»
Le médecin réfléchit un instant.
« Oui, il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de faire partie de l'équipe médicale du vaisseau spatial Shenzhou 19. Un jour, des astronautes ont rapporté avoir vu des scintillements n'ayant aucune existence réelle. Dans le passé, des astronautes de la Station spatiale internationale ont aussi rédigé des rapports similaires, alors qu'ils travaillaient à l'extérieur du cockpit. Ce sont des événements qui ont eu lieu lors d'activités intenses du Soleil. Les particules énergétiques solaires attaquent la rétine et les astronautes ont cru voir briller quelque chose. Mais les nombres dont vous parlez, ou bien votre compte à rebours, ne sont certainement pas liés à ce phénomène. »
Wang Miao sortit de l'hôpital, troublé, et le compte à rebours toujours suspendu devant ses yeux. Ce dernier semblait le précéder partout où il allait, comme un fantôme le hantant sans relâche. Il acheta une paire de lunettes de soleil, afin d'éviter que quelqu'un ne remarque son regard perdu de somnambule. Wang Miao entra dans le laboratoire principal du centre de recherche en nanotechnologie. Il n'oublia pas d'enlever ses lunettes une fois à l'intérieur, mais cela n'empêcha pas les collègues qui le croisèrent de lui lancer des regards soucieux. Au centre de la salle d'expérience du laboratoire, Wang Miao vit que la cabine noire de réaction était toujours en activité. Cet appareil imposant était constitué d'une sphère reliée à de nombreux câbles. Un nanomatériau ultra-résistant baptisé « poignard volant » avait déjà été produit. Mais cette nouvelle substance était tributaire d'une technique d'assemblage moléculaire, c'est-à-dire que sa production nécessitait l'utilisation d'une sonde permettant de faire s'agglomérer des nanostructures moléculaires et de les superposer brique par brique comme un mur. Ce processus de fabrication était très gourmand en ressources, ce qui faisait du nanomatériau produit à l'arrivée la pierre la plus précieuse au monde. Il était inenvisageable d'en produire à grande échelle. Les chercheurs du laboratoire essayaient donc de provoquer une réaction catalysée qui permettrait de remplacer les techniques d'assemblage moléculaire afin qu'une grande quantité de molécules s'assemblent d'elles-mêmes comme un bloc de construction. Cette expérience avait lieu au cœur de la cabine noire de réaction. L'appareil pouvait simuler des expériences en utilisant un grand nombre de combinaisons moléculaires différentes. Si on s'était contenté d'avoir recours aux méthodes artificielles traditionnelles, il aurait fallu plus d'un siècle pour essayer ces différentes combinaisons, tandis que la cabine noire de réaction permettait justement de tester ces combinaisons automatiquement et à grande vitesse. Outre la capacité à éprouver des réactions réelles, l'appareil permettait aussi d'effectuer des simulations analogiques. Quand une réaction atteignait un certain niveau, l'ordinateur relié à la cabine utilisait les données récoltées pour mettre en place un modèle mathématique basé sur l'étape intermédiaire de cette réaction et terminer l'expérience avec une simulation numérique. Ce procédé augmentait considérablement l'efficacité des expériences. Lorsque le responsable de la branche expérimentale du laboratoire aperçut Wang Miao, il accourut et commença à lui faire le rapport de toute une série de dysfonctionnements dans la cabine de réaction. Ces derniers temps, la scène se répétait quotidiennement, et ce, dès que Wang Miao arrivait au travail. Cela faisait plus d'un an que la cabine était en marche, et des erreurs de mesure avaient impacté la sensibilité des capteurs, si bien qu'il avait fallu stopper la machine et mettre l'appareil en maintenance. Mais en tant que directeur scientifique du projet, Wang Miao insistait pour que la cabine ne soit pas arrêtée avant que la troisième série de combinaisons synthétiques soit terminée. Les ingénieurs n'avaient comme autre solution que de bricoler des appareils rectificatifs sur la machine. Mais à présent, ces appareils nécessitaient à leur tour d'autres appareils, ce qui avait le don d'exaspérer l'équipe. Toutefois, le responsable prit des pincettes
et n'évoqua pas l'hypothèse d'un arrêt des machines et d'une pause dans l'expérience, par peur que cela ne déclenche chez Wang Miao les mêmes sautes d'humeur que les dernières fois. Il exposa simplement les difficultés rencontrées, bien qu'on devine sans peine ce qu'il espérait au fond de lui. Wang Miao leva la tête pour observer la cabine. Il lui trouvait l'apparence d'un utérus autour duquel les ingénieurs, tels des chirurgiens, luttaient pour le maintenir en état de marche. Toute la scène se déroulait auréolée du compte à rebours. 1174-21-11, 1174-21-10, 1174-21-09, 1174-21-08.
Cesse le projet. Essaie.
Wang Miao repensa tout à coup aux paroles de Shen Yufei. « Combien de temps serait nécessaire pour une mise à jour complète des capteurs ?» demanda-t-il. « 4 à 5 jours, probablement. » Le responsable le perçut soudain comme une pointe d'espoir et s'empressa de rectifier.
« Mais nous pouvons faire ça plus rapidement. 3 jours. Je m'y engage, professeur Wang. »
« Je n'ai pas cédé, » se dit Wang Miao intérieurement. « La réparation du matériel est réellement nécessaire et pour cela, les expériences doivent être suspendues, c'est tout. »
Il se tourna vers le responsable qu'il regarda à travers le compte à rebours et déclara « Arrêtez l'expérience. Mettez la machine en maintenance et suivez le calendrier que vous m'avez donné. »
« Bien, professeur Wang. Je vous donnerai très rapidement le programme complet de la mise à jour. Nous pouvons arrêter la machine cet après-midi, » répondit le responsable avec excitation.
« Vous pouvez l'arrêter dès maintenant. » Le responsable du laboratoire regarda Wang Miao d'un air incrédule, mais il retrouva très vite son enthousiasme, comme s'il craignait de laisser filer une occasion inespérée. Il se saisit de son téléphone et donna l'ordre de stopper la machine. Les ingénieurs et les chercheurs du groupe de travail, exténués, en furent naturellement ravis et commencèrent aussitôt à presser la centaine d'interrupteurs de l'appareil. Les écrans de contrôle s'éteignirent les uns après les autres jusqu'à ce qu'enfin, le signal de l'arrêt de la machine apparaît sur l'écran du moniteur principal. Presque simultanément, les chiffres qui défilaient devant les yeux de Wang Miao se figèrent. Le compte à rebours affichait désormais le nombre 1174-10-07. Une poignée de secondes plus tard, le compte à rebours disparut après quelques derniers clignotements. De retour dans une réalité débarrassée de nombreux fantômes, Wang Miao inspira profondément, comme si on l'avait tiré de la noyade. Il s'assit, lessivé, mais il réalisa qu'on le regardait. Il dit au responsable « La mise à jour du système est du ressort de l'unité d'équipement. Vous autres membres de la branche expérimentale, prenez quelques jours de repos, vous les avez bien mérités. Professeur Wang, vous aussi vous êtes fatigué. L'ingénieur en chef Chang va s'occuper de la supervision de la mise à jour. Rentrez vous reposer. »
Oui, fatigué, murmura faiblement Wang Miao.
Une fois le responsable parti, il prit son téléphone et composa le numéro de Shen Yufei. Celle-ci décrocha après une seule sonnerie.
Qui est derrière tout ça? Demanda Wang Miao en s'efforçant en vain de rester calme.
Silence.
Qu'y a-t-il à la fin du compte à rebours?
Silence.
Tu m'écoutes?
Oui.
Pourquoi les nanomatériaux? Ce n'est pas un accélérateur de particules, ce n'est que de la recherche appliquée. Cela vaut-il la peine de vous en préoccuper autant?
Il ne nous appartient pas d'en juger.
La science moderne est une affaire collective, pourquoi ne s'en prendre qu'à moi?
Les percées théoriques les plus radicales ont avant tout été accomplies par des individus. Nous attendons aussi de toi que tu uses de ton prestige et de ton influence pour induire cette étude en erreur, pour l'amener dans une impasse.
Vous voulez rire? Vous rêvez?
Tu n'es pas en position de décider. Si tu crois à l'existence de ce pouvoir, tu ne pourras pas continuer à mener des réflexions scientifiques.
Mais je n'y crois pas un seul instant,
beugla Wang Miao, dont la peur et le désespoir s'étaient soudain changés en rage folle.
Vous croyez que votre petit tour de magie aura raison de moi? Que vous pourrez stopper le progrès de la technologie? J'admets être dans l'incapacité d'expliquer comment vous avez fait pour le moment, mais c'est parce que je n'ai pas encore trouvé qui était l'odieux magicien aux commandes.
Comment pourrait-on te persuader?
peut-il faire étalage de son pouvoir à une plus grande échelle ?
Quelle échelle achèverait de te convaincre ?
Les paroles de Shen Yufei laissèrent Wang Miao abasourdi. Il ne s'était pas préparé à cette réplique. Il se força à garder son sang-froid pour ne pas tomber tête baissée dans le piège.
« Remballez votre mal à magie. Grande échelle ou non, cela reste des illusions. Vous pouvez tout à fait projeter un hologramme dans le ciel comme l'a fait l'OTAN il y a 2 ans lors de la dernière guerre. Il existe même des lasers suffisamment puissants pour projeter une image sur toute la surface de la Lune. Le sniper et le fermier peuvent jouer à une échelle inatteignable par les humains. Par exemple, le compte à rebours peut-il apparaître sur la surface du soleil ? »
Il garda la bouche ouverte. À sa propre surprise, il avait inconsciemment évoqué les 2 hypothèses qui auraient dû rester taboues dans cette situation. Heureusement pour lui, il n'avait pas poussé plus loin cette réflexion. Afin de reprendre l'initiative, il enchaîna.
« Je viens de penser à une option à laquelle je n'avais pas encore songé. Qui sait ? Votre fameux magicien serait peut-être capable d'atteindre l'échelle du soleil. Pour que votre démonstration soit vraiment convaincante, il faudrait pouvoir atteindre une échelle plus grande encore. »
La question est, en sortiras-tu indemne ? Nous sommes amis, je veux t'aider. Ne suis pas le destin de Yang Dong.
En entendant ce nom, Wang Miao ne put s'empêcher de frissonner, mais très vite, sa colère reprit le dessus.
Est-il prêt à relever ce défi ?
Oui.
Que vas-tu faire ? La voix de Wang Miao s'était affaiblie.
As-tu à côté de toi un ordinateur relié à Internet ? Bien. Entre l'adresse suivante. http://www.qsl.net/bg3tt/zl/mesdm.htm. C'est fait ? Imprime la page et garde-la à portée de main.
Wang Miao vit qu'il n'y avait rien d'autre sur la page que l'alphabet morse.
« Je ne comprends pas, c'est... »
« Dans les 2 jours à venir, essaie de trouver un endroit où tu pourras observer le fond diffus cosmologique. Pour plus de détails, tu consulteras le mail que je vais t'envoyer. »
Ce... Pourquoi ?
Je sais que ton projet de recherche en nanotechnologie a été temporairement arrêté. As-tu l'intention de le redémarrer ?
Bien sûr, dans 3 jours.
Dans ce cas, le compte à rebours va recommencer.
À quelle échelle le verrai-je ?
Sa question fut suivie d'un long silence. Cette femme qui agissait comme le porte-parole d'une force dépassant tout entendement humain venait de lui fermer froidement toute issue de secours.
Dans 3 jours, c'est-à-dire le 14, de 1h à 5h du matin, c'est l'univers entier qui clignotera pour toi.